France Inter.
Vamos.
Ok.
Ce matin, Étienne Dao donne rendez-vous au studio Motorbass, Nicolas. C'est dans le 18e arrondissement, au nord de Paris. Il y a du bois partout, un mur de vinyle, batterie, guitare. C'est là qu'Étienne Dao a enregistré une bonne partie de son nouvel album.
On peut se mettre par là ?
Ah ouais, ce serait super. C'est vachement beau ici.
Ouais, c'est très beau. Tous mes premières chansons ont été mixées ici. Et puis après, je suis revenu dans les années 90 où j'ai produit un album pour Jacquenot, ici. Un album qui s'appelle Faux Témoin. Et ensuite, le studio a été repris par Philippe Serboneski, alias Philippe Sdar, qui est un ami, un petit frère, compagnon de route, quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi et qui continue, parce qu'en fait, on est là chez lui. Il a créé ce studio. Et même s'il est parti physiquement, il est toujours là, il nous fait des clins d'œil. On a eu des petite manifestation. Ouais, je sais qu'il est là.
Il est une signature vocale. Sa musique raconte son éclectisme musical et ses paroles avancent masquées. Il peut chanter le danger, la douleur ou l'érotisme dans des bulles pop qu'on a fredonné, fredonne ou fredonnera sans y penser. Étienne Dao publie un nouvel album dans un mois, Tirer la nuit sur les étoiles, c'est le titre, et il l'évoque ici pour la première fois. Un disque majestueux qui tresse pop symphonique, électronique et inspiration 60s. Son univers grand ouvert, fait d'images et de sons, influence la chanson d'ici depuis des années et ça n'est pas fini. Arrive pour lui le moment où, comme il le dit, l'enjeu n'est pas d'être aimé, mais compris. Bonjour, bienvenue, c'est l'échappée de Totémique avec Étienne Dao.
Totémique. Rebecca Manzoni sur France Inter.
C'est dans ce décor de Motorbass qu'on va écouter un film. Un début de film même, parce que c'est la précision que vous avez donnée.
C'est moi qui n'en peux plus.
Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle avec Maurice René et Jeanne Moreau.
Je t'aime. Je t'aime. Alors il faut bien.
Alors il faut bien.
Je t'aime. Je ne te quitterai pas, Julien.
C'est beau. Hein.
Tu sais que je serai là. Avec toi.
Si je n'entendais pas ta voix,
je serais perdu dans un pays de silence. J'adore cette phrase.
Ce n'est pas très courageux.
Mais ce n'est pas courageux, l'amour.
Et toi ?
Et Miles Davis qui arrive. Ascenseur pour l'échafaud, Louis Malle. Mais je trouve ce début, ce générique de début de film magnifique, avec ce très gros plan sur Jeanne, sur sa bouche. Tellement emportée, en fait. Elle est emportée. Elle est emportée par l'amour qu'elle porte à Julien, à Maurice René. Le désir, c'est très important pour moi, dans mon rapport avec les autres. Et pour Jeanne aussi, ça a été très important. Mon interrogation, c'était que devient ce désir ? Et c'est une terreur de se dire que peut-être qu'il peut s'étioler, qu'il peut s'abîmer, qu'il peut s'arrêter.
Ça vous est arrivé ?
Pas encore, mais j'ai peur que ça arrive un jour. Ça a été vraiment un sujet entre Jeanne et moi. Et donc, je l'interrogeais beaucoup là-dessus, sur ce que devenait l'amour. Qu'est-ce que ça devient ? Et le désir physique, comment il se transforme ?
Vous lui avez posé ces questions-là ?
Ah oui, ça me préoccupait beaucoup. Et comme elle était beaucoup plus avancée en âge que moi, et qu'elle avait beaucoup vécu de choses passionnelles, et même, j'espère ne pas trahir quelque chose de trop personnel, mais elle m'a appelé un jour en me disant qu'elle était folle amoureuse, très peu de temps avant qu'elle parte. Et c'était extrêmement rassurant. C'était extrêmement beau. Oui, ça me préoccupait beaucoup. Ça me préoccupe toujours, mais elle m'a rassuré d'une certaine manière. Et puis, elle transformait aussi beaucoup dans le travail, cette chose-là. Je pense qu'on peut transformer aussi dans le travail beaucoup de ce qu'elle désire, bien sûr.
Là, le disque qui va paraître, c'est le récit d'une histoire d'amour, depuis la première jusqu'à la dernière chanson, c'est comme plus, un film d'ailleurs.
Je raconte plus l'amour qu'une histoire d'amour en fait. Je raconte les émotions que ça provoque et que c'est la meilleure des dopes. D'être vraiment emporté par ce que provoque une rencontre. Voilà. Surtout que on est censé, à partir d'un certain âge, être beaucoup plus raisonnable. Et en fait, pas du tout, on fait les mêmes conneries. On recommence exactement les mêmes conneries. Il y a une chanson de Barbara qui dit ça à chaque fois, c'est la première fois. Enfin, elle le dit beaucoup mieux que la manière dont je le dis maintenant, mais c'est une chanson qui s'appelle « À chaque fois », je crois. « Chaque fois qu'on parle d'amour, c'est avec jamais et toujours. Viens, refais-moi le serment qu'avant toi, il n'y avait pas d'avant. Il n'y avait pas l'ombre, il n'y avait pas le soleil. Le jour et la nuit, c'était pareil. » C'est chaque fois, c'est la première fois. Ben voilà. Moi, je pense que chaque fois, c'est la première fois. Et qu'il n'y a pas d'expérience.
Y compris dans la douleur d'une rupture. Hein. Il y a une chanson qui parle de ça dans le disque. Et vous, vous chantez ce que fait l'amour. Mais jamais vous n'écrirez quelque chose du genre « Ne pars pas, je t'en supplie », ce genre de truc.
Ah non, ah, surtout pas. Ah non, faut rester le trophée quand même. En toutes circonstances.
Ah ouais, donc...
Ah oui, ouais, une chanson comme « Ne me quitte pas », pour moi, c'est inenvisageable. Je déteste cette chanson. Hein. Je vais faire hurler la France entière, mais vraiment, je trouve que Brel est un artiste merveilleux. Mais cette chanson, je ne la supporte pas.
C'est-à-dire que cet aspect-là de l'amour, de l'état dans lequel on peut se retrouver, d'être suppliant et d'une amibe qui rampe pour dire « s'il te plaît, pars pas », c'est un sujet ou c'est une sensation que vous ne chanterez pas.
Je ne le chanterai pas parce que c'est quelque chose que je ne ferai jamais. C'est tout. Non, je ne dis rien parce que j'ai rien d'autre à ajouter. Je ne vois pas ce que je pourrais dire. C'est vraiment... Il ne faut pas, quoi.
Boyfriend, qu'on va écouter, c'est une chanson qui est née comment ?
Alors, c'est une chanson... J'ai des amis que j'aime, vraiment, qui s'appellent Jade Vincent et Kiefer Scientia, qui sont deux des membres du groupe de Unloved, qui est vraiment un groupe que j'ai découvert il y a 5 ans, en écoutant la radio anglaise. Et c'était une rencontre vraiment merveilleuse. On se dit aussi que les plus grands amis, ceux qu'on aime le plus, sont ceux qu'on rencontre dans l'enfance, l'adolescence ou dans la jeunesse. Et puis, en fait, on découvre qu'on peut avoir des espèces d'élan de l'amitié, comme quand on est très jeune. Et j'ai eu ça, j'ai ça avec eux. Ils sont venus me rendre visite à Saint-Malo. Et du coup, ils ont tellement aimé qu'ils se sont installés à Saint-Malo. Ils ont quitté Los Angeles. Et ils sont à Saint-Malo, donc c'est très bien. Je les ai sous la papate. Et je les vois souvent. Et ils m'ont offert cette chanson, cette musique. Et c'est vraiment une chanson sur l'amitié amoureuse. Parce que l'amour, c'est plein de choses. C'est multiple. Dieu merci, il n'y a pas que une façon d'aimer quand même.
C'est la chanson d'un homme heureux. Vous êtes heureux, non ?
C'est vrai. C'est vrai que c'est aussi l'avantage de, voilà, de mûrir, de prendre des années. Parce que voilà, tant qu'on a cette vitalité ou tant qu'on a cette énergie de continuer à faire ce qu'on aime et d'avoir ce retour, ça porte. Donc ça m'évite de penser que peut-être que ce ne sera pas toujours comme ça et qu'il y aura des moments peut-être moins joyeux. Mais en tout cas, je suis heureux parce que j'ai plein de raisons de l'être. J'ai plein de raisons de l'être. Je suis un privilégié, je fais ce que j'aime. Ce que j'aime, ça a l'air de plaire toujours à suffisamment de gens pour que je puisse partir en tournée, pour pouvoir continuer à faire des disques. C'est gigantesque. J'en suis très conscient. Voilà.
Je serai ton ami et ton boyfriend aussi. Celui qui guidera ta main pour voir ton chemin s'éclaircir. Je serai ton pote, ta dope, ta pharmacopée. Je serai le cachet qui fond sous la langue pour t'apaiser. Je serai tout près, gardant bien mes distances. Ton poison le plus violent, ton fils de joie, ton
Etienne Dao, Rebecca Manzoni, Totemic, France Inter.
Ça vous va ?
Super.
Ouais.
Vous aimez tout ce qui est biographie d'artistes ?
Oui, ouais, beaucoup.
Qu'est-ce que vous recherchez ?
J'aime savoir comment un artiste est amené à créer. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour l'amener à faire une œuvre ? En général, je suis assez complétiste quand j'aime un artiste, c'est-à-dire que je veux tout savoir, je veux tout avoir, la filmographie complète, la discographie complète, y compris les films ratés ou les albums ratés. Ça m'intéresse toujours de savoir quel est ce parcours et le pourquoi de ce parcours.
Ça vous permet de trouver des réponses à des questions que vous posez ou ça peut être inspirant ?
Oui, ça me rapproche parce que j'ai constaté que quand je suis très inspiré ou quand j'aime beaucoup quelqu'un, vivant ou mort en fait, accessible ou pas, il y a toujours quelque chose qui nous relie. Par exemple, tous les artistes que j'aimais, qui m'ont construit vraiment enfant et adolescent, quand j'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer, enfin, quand la vie m'a mis sur leur chemin, il y avait une évidence. Voilà. Ces artistes font écho à ce que vous êtes, quelque chose que vous recherchez d'une manière peut-être confuse.
À qui vous pensez, par exemple ?
Je pense à Françoise Hardy, parce qu'elle a beaucoup occupé ma tête et mes oreilles pendant toute mon adolescence et mon enfance. J'ai tout de suite aimé sa voix, ses chansons. Et quand je l'ai rencontrée, ça a été une immédiateté. On est devenus amis assez rapidement.
Comment Françoise Hardy vous est venue dans les oreilles ?
Alors, je me souviens très très bien. Enfin, il y avait un jukebox dans l'établissement que tenaient mes tantes en Algérie, dans un endroit qui s'appelle Cap Falcon, au bord de mer. Et il y avait cette chanson qui s'appelait « C'est à l'amour auquel je pense ». Il y a d'ailleurs une petite faute. Cette voix, cette mélancolie, cette douceur, tout ça, tout de suite, je l'ai adoré. Et ensuite, je me souviens très très bien d'un autre titre que j'ai écouté. Une chanson qui s'appelle « Pourtant tu m'aimes ». Et il y a une espèce de truc, c'est une espèce de truc très musclé, presque spectorien.
Au mur du son, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Très très épais, tout ça. Et je me souviens que j'ai entendu ça sur... à la radio, et j'adore le son des radios, la compression.
Ah bon ?
Ouais. Je trouve que ça donne beaucoup de puissance. Enfin, il y a quelque chose que j'aime quand j'écoute une chanson à la radio. C'est vraiment là qu'on apprécie une chanson, je trouve. Véritablement, qu'on la découvre. Et donc, vraiment, cette chanson m'a rendu fou. Et après, quand je suis arrivé en France, je la voyais dans des émissions, je la trouvais tellement sublime.
Vous parlez de Cap Falcon, là où vous avez grandi en Algérie, enfin vous êtes né à Oran, mm-hmm. Et dans un livre qui est apparu récemment, A Secret Book,
ah oui.
Il est dit qu'en fait, votre naissance en Algérie, vous n'en avez pas parlé pendant très très longtemps.
Mm-hmm.
Pour quelle raison ?
Parce que j'aimais pas cette partie de ma vie pendant longtemps. Elle représentait des années à la fois, ce sont des moments très heureux, parce que ce sont des moments avec mes grands-parents, mes tantes, le soleil, la musique, une forme de joie de vivre. Et à la fois, des choses beaucoup plus chaotiques, la guerre, la mort très présente, les séparations, les abandons, la pension à l'âge de 5 ans, beaucoup de choses comme ça qui sont liées. Et quand je suis arrivé en France, j'avais l'impression d'être une bête curieuse. Et je n'avais qu'une envie, c'était vraiment me fondre dans la masse, être l'homme invisible, qu'on ne me voit pas surtout. Et ça a duré longtemps, d'être vraiment invisible. C'est quand même le fait d'avoir choisi un métier comme celui-là. C'est tellement... Mais c'est absurde, si on y réfléchit.
Mais quel rôle a joué la musique dans le fait d'être un homme invisible? Est-ce qu'elle a joué un rôle, la musique, là-dedans?
Ah oui, toujours. Ça a été vraiment une manière de me construire. C'était dorlotant.
Il y a des artistes... Dorlotant?
Oui, parce que la musique peut vous dorloter, peut vous rassurer, peut vous construire. Les chansons parlent à l'âme, en fait. Elles racontent ce que vous êtes. C'est pour ça que vous vous y attachez. Et ça a été très important pour moi, vraiment. Ça l'est toujours. Hein. J'adore la musique des autres. Je l'écoute.
Vous l'écoutez, mais vous la transmettez aussi. Chez vous, il y a cette idée de la transmission dans vos interviews, dans vos disques.
Mais je crois que c'est le rôle de l'artiste de transmettre, de dire ce qu'il aime, d'avoir ce lien et de ne pas être enfermé sur sa propre musique. Parce que ma musique, elle est la somme de tout ce que j'écoute, d'une certaine manière. Je cite mes sources, en tout cas, à chaque fois, parce que je trouve que c'est important, parce que j'ai de la gratitude par rapport aux gens qui m'ont apporté de belles choses.
Mais vous, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui vous aurait transmis quelque chose pour la musique, justement?
Ah, beaucoup, beaucoup de gens, pas que pour la musique, mais déjà ma famille. Mon père a écouté beaucoup de musique, enfin le peu que j'en ai vu en tout cas, ce sont des souvenirs de musique. Et puis un album, le premier album des Beach Boys, que j'ai toujours. Et puis ma mère écoutait beaucoup Dionne Warwick, Frank Sinatra, Presley. C'est resté. Et puis mes sœurs, toute la pop anglaise, moi les yéyés, tout ça. Enfin, je veux dire, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui ont été importantes et qui le sont toujours. Et ensuite, mes amis d'école, après on faisait des cassettes pour ses potes avec les chansons qu'on préférait.
Et on se racontait dans les cassettes qu'on faisait.
Bien sûr, bien sûr. Ça permettait vraiment de
dire voilà qui je suis.
De transmettre des choses, de partager des choses.
Et puis, ce qui compte aussi beaucoup dans une vie, c'est ce qu'on découvre tout seul aussi. Ouais. Ce qui n'est qu'à soi. Et je crois que la chanson que vous avez choisie, vous ne devez sa découverte qu'à vous. Mais je me trompe peut-être. Vous allez me dire.
Ah. Déjà, cette intro magnifique. When you're growing up in a small town. When you're growing up in a small town. Ah, ça c'est l'album de Laurie et John Cale, il s'appelle Songs for Drella. C'est un album qui a été enregistré au début des années 90 et qui est la réunion de Laurie et John Cale, qui sont quand même deux maîtres de la musique pour moi.
Laurie et John Cale, pour rappeler, étant les fondateurs du Velvet Underground.
Voilà, c'est ça. La découverte du premier album du Velvet a été, ça a été une révélation, quoi. Je savais qu'il se racontait des choses qui me parlaient, mais je ne les comprenais pas forcément toujours. Mais intuitivement, on sent quand ça s'adresse à vous.
Mais Lou Reed, c'est non seulement l'un des premiers à avoir changé l'écriture du rock, en racontant vraiment sa face sombre et ses excès. Il y a un côté hyper vénéneux.
Cette chose vénéneuse qui, moi, m'attirait beaucoup. J'ai toujours été très attiré par les personnages, justement, dangereux. Dans la littérature, dans la musique.
Mais c'est ça que vous chantez aussi.
Oui, j'ai une attirance pour ça. I hate being odd in a small town. If they stare, let them stare in New York City. At this pink-eyed painting albino. How far can my fantasy go? I'm no Dolly coming from Pittsburgh. No adorable lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you'll grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it, and you know you'll have to leave.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ce qui est le plus important, c'est d'être compris plutôt que d'être aimé absolument?
Alors oui, oui, mais ça fait quelques années que j'ai compris ça, en fait, que je préférais être compris qu'être aimé. Parce que c'est plus profond et qu'être aimé, c'est très volatile, hein, c'est très fugitif. J'ai connu cette espèce d'élan passionnel dans mes premières années et c'était génial, hein, c'était très agréable de recevoir des petites culottes sur scène, mais c'est anecdotique en fait. J'avais de l'ambition, j'avais envie de faire des belles choses et j'avais envie d'évoluer, j'avais envie de faire des choses différentes. Et donc je suis passé par des disques qui ont dérouté, qui ont été détestés par les gens comme Eden, enfin... Mais avec le temps, ont pris le temps de se faire apprécier par eux-mêmes, en fait. L'intérêt de la pop, justement, c'est qu'on peut mélanger plein de choses et que tous les coups sont permis. On peut aller partout. Je peux faire du reggae si je veux, je peux faire du hip-hop si je veux, je peux faire de l'électro si je veux, ça restera de la pop. Je suis pas enfermé dans un genre, en fait.
Il y a un dernier son que j'aimerais vous faire écouter.
Ok. Oh, c'est fou. J'écoute un petit moment parce que ça me fait quelque chose.
Le temps me donne le temps, le temps me donne le temps, et il s'en va.
Ah, ce sont mes premiers enregistrements avec Richard Dumas, le photographe.
Qui là est à la guitare.
Il est à la guitare. Et c'est les premières maquettes qu'on a enregistrées avec un petit appareil à cassette qui était posé à côté de moi. Et c'est les premières chansons, en fait, c'est les premières maquettes. Et, et Richard les a retrouvées et me les a offertes il y a, je sais pas, une dizaine d'années. Et c'est incroyable parce que j'ai l'impression de vraiment d'être comme un intrus dans ma chambre d'étudiant et de regarder un jeune gars qui rêve de musique et qui ose pas vraiment et qui fait ses premières chansons ne sachant pas du tout ce que ça va devenir.
Vous êtes le même aujourd'hui que ce jeune homme dans sa chambre d'étudiant qui enregistre des trucs sur des cassettes?
Complètement le même. Je suis la même personne. Ouais. J'ai les mêmes envies. Oui, je suis vraiment la même personne. Après, moi, c'est ce que je ressens. Il faudrait peut-être interroger les autres. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir changé ma direction ou mes envies. Après, il y a des choses qui s'affinent, heureusement. Dieu merci, on apprend quand même deux ou trois trucs. Mais sur le fond et sur la base et sur l'envie, en fait. L'envie d'origine, pareil.
Ouais. On apprend quoi, alors, parmi ces deux ou trois trucs?
À ne pas avoir peur. Déjà, c'est vrai que je ressens pas de peur, de l'excitation par rapport aux choses, mais pas de peur. On me dit, vous avez peur de ça. C'est quelque chose qui est complètement éliminé de mon système. Et ça libère beaucoup. Mais je pense que j'avais peur de moi, surtout.
Ah bon?
Oui.
Peur que vous lâchiez l'affaire?
Non, comment expliquer ça? Le plus honnêtement possible. Non, on se cherche longtemps. Et j'avais peut-être peur de la personne que j'étais, ou que j'allais devenir, ou peut-être que j'avais peur de ne pas devenir la personne que je rêvais d'être. J'avais des peurs comme ça. Parce que, voilà, personne ne vous apprend, il n'y a pas de bouquin pour apprendre ça. En tout cas, moi, on ne me l'a pas appris. Et j'ai appris tout seul. Et donc, voilà, ça fait partie des peurs que je pouvais avoir.
Vous rêviez d'être quelle personne ?
Je rêvais d'avoir une belle vie. Je crois que c'est ça, d'avoir une belle vie.
J'aimerais qu'on parle de votre voix, parce que votre voix, notamment sur ce dernier disque, si je peux me permettre, vous n'avez jamais aussi bien chanté, je trouve.
Alors, merci, c'est très gentil. Probablement parce que ce sont des voix témoins. En fait, voilà, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'en fait... J'ai fait des voix témoins quand on a fait ces maquettes, dont une partie chez moi, avec un son pourri d'ailleurs, qu'il a fallu vraiment... le pauvre Jean-Louis, il a fallu vraiment...
Jean-Louis Pierrot, qui a co-réalisé l'album.
Ouais, qui est un homme merveilleux et un artiste incroyable, que j'ai la chance d'avoir près de moi. Et Il a mixé quelques titres et il a mixé les titres des voix que j'avais enregistrées chez moi. Donc on entend l'école en face, on entend plein de bruit. Et le son des voix était vraiment très mauvais. Il a réussi quand même à en tirer quelque chose. Mais comme quand on chante que c'est une maquette et qu'on se dit on fera mieux la prochaine fois, il n'y a aucune appréhension. On chante le texte comme ça. Et puis je me disais que je chanterais plus tard et que je ferais beaucoup mieux. Et en fait, j'ai été malade la semaine où... qui était consacrée aux voix, donc ce qui fait que je ne les ai pas refaites. Voilà, du tout.
Vous la travaillez, votre voix ?
Bien sûr. Je la travaille pour donner l'impression que je ne la travaille pas.
Vous travaillez quoi ? Le souffle ?
Je travaille avec un professeur qui s'appelle Sarah Sanders, que j'ai rencontré dans les années 90. Et on a commencé à travailler ensemble sur un album qui s'appelait Paris ailleurs, parce que j'avais d'autres ambitions. Enfin, j'avais aussi été un peu blessé de certaines réflexions sur ma voix. Voilà, j'ai rencontré un micro quand j'avais 20 ans et j'ai chanté comme je parlais. Donc, j'ai pas travaillé du tout. Et j'ai chanté mes compositions, donc tout ça me paraissait assez simple. Et à un certain moment, j'ai commencé à chanter des choses plus complexes ou plus ambitieuses, comme des heures hindoues, par exemple. Et je me disais, j'ai un timbre qui m'identifie, mais ça suffit pas. Si je veux continuer, si je veux faire des belles choses, il faut que je travaille. Et donc j'ai rencontré Sarah, avec laquelle je travaille, donc elle ne modifie pas ce que je suis, mais par exemple j'ai une voix très basse, ce qui fait qu'on ne peut pas être dans la puissance, ou alors c'est vraiment vilain. Donc quand on est dans des tonalités comme ça, très basses, il faut avoir et du souffle, et une technique qui vous permette de garder le souffle longtemps, comme par exemple mes modèles masculins vocaux, qui sont Chet Baker ou des chanteurs brésiliens. João Gilberto, tous ces chanteurs brésiliens qui chantent comme ça, sur le fil, en ne se préoccupant que de l'émotion juste, mais pas du reste. En tout cas, pas de montrer ses amygdales. Ou... Donc voilà. Puis c'est un plaisir dans ma vie de travailler les chansons, de manière à les améliorer, de manière à... Elles sont souvent complexes, elles n'ont l'air de rien. Et quand les gens s'y essayent, ils me disent « Ah, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense ». Donc voilà, ça me permet vraiment de traverser des chansons avec le plus d'aisance possible, comme Boyfriend, qui est un peu une tannée à chanter.
Pourquoi c'est une tannée ?
Parce qu'elle est complexe, elle a une suite harmonique un peu complexe. Et au début, j'arrivais pas à trouver la note du refrain. Ça me rendait dingue. Sur la fin, surtout la fin du refrain. Les hommes de ta vie que j'incarnerai à l'envi. Cette note. Très garce.
La dernière séquence de cette émission, c'est une séance photo avec un Polaroid.
Ouais.
Est-ce que vous êtes d'accord pour le faire ou pas ?
Ben oui.
Ok.
Après, j'ai une sale gueule aujourd'hui. Hein.
Vous avez fait la fête.
Peut-être tous les jours, mais peut-être aujourd'hui encore plus.
Est-ce qu'on se met...
Ouais, j'aime bien la cabine à cause des vinyles.
Bah venez, on va là-bas alors.
La cabine de chant.
Vous êtes prêts ?
Et voilà.
C'est beau d'avoir tous ces vinyles autour de soi.
Vous avez été disquaire, vous ?
Oui. J'ai fait plein de choses quand j'ai commencé à chanter pour payer mes maquettes. Donc, je travaillais comme DJ la nuit, comme vendeur de disques le jour, pion de temps en temps. Je dormais 3 secondes par nuit. C'était des moments très, très joyeux parce que j'avais vraiment ce but de payer. C'était très cher, en fait, de faire des maquettes en studio. J'ai payé, mais pendant des années, je crois, jusqu'en 85, 86, j'ai continué à rembourser... les sous que je devais du concert des Stinky Toys et des maquettes au studio à Rennes.
Et vous étiez quel type de disquaire ?
Je réorientais le choix des gens. Par exemple, quand ils achetaient un truc que j'aimais pas, je me disais, oh là là, non, c'est pas possible, ils vont pas partir avec ça, quelle lose. Et donc, je mettais un point d'honneur à réorienter leur choix, à leur faire écouter des choses, de manière à ce qu'ils partent avec quelque chose pour lequel ils n'étaient pas venus dans la boutique. Je me mettais des missions, en fait. Donc, il y a des disques qui ne vendaient que en Bretagne et que dans cette boutique, en particulier Broken English de Marianne Faithfull. Je me souviens que les représentants à l'époque de Highland, parce que c'était chez Highland, ne comprenaient pas pourquoi dans cette boutique, tout d'un coup, on en dépotait, je ne sais pas, 20 par semaine.
La photo est développée. Elle est floue.
Elle est floue parce qu'elle n'est pas encore développée ou elle est floue parce qu'elle est floue ?
Elle est floue parce que je ne sais pas prendre de photos.
D'accord. En tout cas, moi, je ne suis pas quelqu'un de flou.
Vous voulez qu'on la refasse ?
Non. On voit pas ma gueule de bois, donc ça va.
Eh ben super. Merci beaucoup, Étienne Dao.
Merci, Rebecca.
Tirer la nuit sur les étoiles, c'est le titre du nouvel album d'Étienne Dao qui sortira le 12 mai. Une tournée des Zéniths est déjà annoncée à Caen le 4 novembre, à Nantes le 7, à Toulouse le 10. Et il y aura un Accor Arena à Paris le 22 décembre.